18-20.
Avec une nouvelle édition spéciale du 18-20, on poursuit ensemble notre réflexion sur les conséquences, les effets du premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient aux côtés des salariés, de Whirlpool à Amiens. Ils luttent contre la délocalisation de leur usine en Pologne. Et le débat s'est immédiatement placé sur le terrain européen contre les délocalisations de convenance, faire valoir le protectionnisme ou le patriotisme, contre le marché dérégulé, la restauration des frontières, contre la libre circulation européenne, la revendication d'une préférence nationale. C'est un exemple parmi d'autres de la manière dont se structure le débat européen en France. Un exemple, mais pas le seul. On en parle jusqu'à 19h. Intervenez au 01 45 24 7000.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Et je salue Sébastien au standard. Vous nous appelez de Bordeaux. Soyez le bienvenu sur France Inter.
Merci beaucoup Nicolas, enchanté.
Enchanté, pareil.
Alors, du coup, je voulais intervenir par rapport à l'Europe. C'est une très bonne émission, un très bon sujet. Alors, le problème qu'on a... Alors, l'Europe, moi, je suis totalement pour. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pour. Le seul problème qu'on a actuellement, c'est qu'on a une Europe économique, mais on n'a pas l'Europe sociale. Du coup, on se retrouve avec une concurrence totalement déloyale. C'est comme si vous aviez un match de foot à 11 contre 2. C'est impossible de la gagner, on est tout à fait d'accord. Donc voilà, la question que je voudrais réellement poser aux candidats, c'est qu'est-ce qu'ils voudraient faire pour améliorer ça et pour qu'on ait une Europe sociale? Qu'est-ce qu'ils arriveraient à imposer?
Merci Sébastien pour cette question. Alors je n'ai pas de candidat sous la main en studio, à moins que ça m'ait échappé, mais d'éminents spécialistes de la chose économique et de la chose européenne. Restez en ligne Sébastien. Bertrand Badie, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, professeur de relations internationales à Sciences Po. Nous vous avions reçu il y a quelques jours ou semaines pour parler d'Europe et de politique internationale dans le téléphone sonne. Henri Sterdignac, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste à l'OFCE, signataire du manifeste des économistes atterrés. Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de géographie et d'histoire à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Rester dans l'Europe, mais une Europe plus sociale, quelle proposition pour arriver vers cet horizon, ou en tout cas s'y diriger? Qui veut répondre à la question de Sébastien? Bertrand Badie?
Oui, je crois que c'est une question tout à fait centrale. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle a une histoire, elle n'est pas figée, elle ne peut pas être figée. Il faut toujours avoir en tête qu'elle a été construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec deux missions précises, et ça rejoint ce que disait notre auditeur. D'une part, construire la paix, là c'est quand même quelque chose qui est tout à fait positif et réalisé, et d'autre part, reconstruire économiquement l'Europe. Et c'est vrai que le paramètre social, monsieur a tout à fait raison, n'était pas dans cette logique de départ qui du coup était une logique associative, c'est-à-dire en Europe, on s'associait pour faire la force, l'Union devait faire la force. Aujourd'hui, le contexte est différent. Le contexte numéro un, ce n'est pas le risque de guerre intestine en Europe, ça reste celui de la construction économique, mais derrière cela, il y a un changement de logiciel qu'il faut faire, c'est-à-dire baser l'Europe non plus tellement sur l'association ne suffit plus, mais sur la solidarité. C'est-à-dire un changement de logiciel. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que les candidats ne se définissent pas par rapport à ça. C'est pas d'Europe ou de l'Europe, sortir de l'Europe ou y rester, c'est changer l'Europe. Le débat pour les 20-30 prochaines années, ça sera quel nouveau logiciel l'Europe a besoin pour se renforcer et pour se situer dans le monde. Il ne faut pas oublier cet élément aussi.
Henri Sterdignac, économiste, réponse à Sébastien, notre auditeur.
Le problème de fond, c'est que l'Europe, c'est un ensemble de pays et de peuples qui ont malheureusement des intérêts divergents. On peut parler d'Europe sociale, ce qui est bien sûr généreux. Le problème, c'est que les ouvriers polonais n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les ouvriers français. Et que c'est très difficile à concilier. Les Polonais sont très contents d'avoir des usines qui arrivent chez eux. Ils bénéficient du fait qu'ils ont des salaires plus bas. Donc naturellement, il y a deux gagnants dans l'opération. D'un côté, Whirlpool, parce qu'il va pouvoir produire moins cher. Et puis de l'autre côté, il faut le dire aussi, les travailleurs polonais. Et quand on dit on fait l'Europe sociale, le problème c'est comment? Est-ce qu'on va interdire aux Polonais de profiter de leurs avantages comparatifs, qui sont justement les bas salaires? C'est très difficile. Et le problème de l'Europe, c'est qu'on fige avec la zone euro, on a figé les taux de change. Les taux de change dans la zone euro sont sans doute, le franc est sans doute, enfin, la France a sans doute actuellement un taux de change surévalué. Et puis, du coup, on a des pertes importantes d'emplois industriels qu'on ne réussit pas à compenser. Et il est très difficile de dire, ben, si on va résoudre ça par l'Europe sociale ou même par la solidarité. Parce que
alors,
c'est quoi la solidarité
alors,
dans le cas présent
fait, qu'est-ce qu'on fait, Henri Sterdyniak? Ce que vous avez décrit est parfaitement logique.
Mais ce qu'on fait d'abord...
Il n'empêche que ça rend fou tout le monde.
Oui, ça rend fou. On est dans une situation difficile. Le seul espoir, c'est que ça va s'arranger à moyen terme. Il faut dire, par exemple, que les salaires dans les pays de l'Est commencent à augmenter. C'est quand même important, notamment en Pologne. Mais d'ici là, on est mal. Il y a des victimes. C'est les classes populaires chez nous, c'est les ouvriers chez nous qui sont victimes de cette concurrence. Et ce qui se rajoute à ça, c'est le fait que globalement, dans la zone euro, on n'a pas la politique expansionniste qui permettrait quand même de mettre du sable dans les rouages et qui permettrait que ça se passe un peu mieux. Donc d'un côté, on a une politique restrictive de demande globale et puis de l'autre côté, on a des taux de change qui conviennent pas pour des pays comme la France. Et puis on a par ailleurs le fait que on a accepté des pays à bas salaire et puis on souffre.
Sylvain Kahn.
Alors moi, je suis bien sûr d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Simplement, ce qui me gêne, c'est que il faudrait surtout pas qu'on imagine que les problèmes qui viennent d'être évoqués n'existaient pas déjà avant l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, sur le taux de change. Bon, là aussi, je suis un peu embêté, tout en étant totalement d'accord sur le diagnostic. Le taux de change, au début, on nous a dit que l'euro était trop élevé. Depuis 5 ans, l'euro n'a pas cessé de baisser. Aujourd'hui, on est quasiment à 1 euro pour 1 dollar. Il y a eu le fameux rapport gallois qui expliquait qu'en termes de compétitivité, l'euro était trop fort. L'euro a perdu presque 30% de sa valeur. Et la situation de l'industrie française n'a absolument pas changé. Donc, moi, ce qui m'ennuie un peu dans cela, même si je suis d'accord encore une fois sur le fait qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, c'est que j'ai quand même un peu le sentiment qu'en France, on a tendance à charger l'Europe d'un certain nombre de problèmes sans se demander quelles sont les spécificités franco-françaises aux difficultés qu'on a. Voilà.
Oui, mais on est en France, il y a le temps court d'une campagne électorale extrêmement cruciale. Alors, on peut effectivement dire que les choses ont toujours fonctionné comme ça, qu'on aurait pu les penser autrement, mais elles se cristallisent dans le débat public d'une certaine manière qui est très violente à l'égard de la construction européenne. Et elles pointent l'impuissance d'un pays comme la France, pourtant souverain, et qui ne peut pas faire, qui ne peut rien faire pour empêcher, prenons le cas de Amiens, une entreprise de délocaliser alors que tout va bien, elle marche, elle fonctionne, elle a un marché, il y a des ouvriers qui sont très qualifiés pour la faire tourner. Et voilà, et on dit, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire.
Ça serait le même problème avec les Indes. Ou la Chine,
oui,
Mirpoul irait en Chine,
ça serait pareil,
on serait
construction
un
européenne.
Peu dans la même situation. Le problème aussi qu'il faut dire, mais là on va rentrer dans des propos tout à fait scandaleux, c'est que l'Europe nous empêche d'avoir une politique industrielle et nous empêche de prendre des mesures protectionnistes qui permettraient quand même d'atténuer un peu le phénomène. Donc on se retrouve effectivement avec un taux de change qui, pour la France, est quand même élevé. Et puis, d'autre part, on n'a pas de politique industrielle. C'est pas seulement la faute de l'Europe, c'est aussi,
la faute de la France.
C'est une histoire de la France où on n'a pas trouvé de nouveaux modèles industriels après la destruction ou la mise en cause du modèle du capitalisme d'État. Et puis ensuite, on a le problème qu'on ne peut pas prendre les mesures.
Oui, l'Europe nous
protectionnisme
empêche.
L'Europe
nous empêche, vous le dites très bien, Henri Sterdyniak, même on arrête la phrase là, on fait pas violence à votre raisonnement, l'Europe nous empêche. Et c'est ça qui est aujourd'hui en débat et qui rend fou tout le monde, comme je le disais, de manière familière, Bertrand Badi.
Oui, je crois qu'il faut même faire attention à un certain nombre de choses. D'abord, on est dans la campagne électorale présidentielle et tout débat politique a tendance à simplifier à l'excès les options qui se trouvent ouvertes. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait caractéristique, pour la première fois de manière très claire dans cette campagne présidentielle, c'est que se forme un nouveau clivage qui n'est plus le clivage droite-gauche, mais nation-mondialisation. C'est-à-dire, en quelque sorte, on explique aux Français qu'ils ont le choix entre deux perspectives, tout résoudre par la mondialisation et l'intégration, ou tout résoudre par le retour à la nation et à l'enfermement national. Bon, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que vous le retrouvez à gauche avec Mélenchon, comme à droite avec Madame Le Pen. Ce néo-nationalisme, c'est-à-dire cette façon de considérer que, par miracle, le retour à la nation pourra tout résoudre. C'est-à-dire, vous dites la France est souveraine, moi je ne sais pas si la France est souveraine. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir en tête tout ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années et qui font que maintenant, on ne peut plus raisonner en termes de choix industriels, de choix économiques, de choix politiques, de choix social, autrement qu'en se plaçant dans la mondialisation. Donc, dire que de toute manière, en rejetant ce processus, qui est un processus qui se développe quand même depuis des années, qui touche tout le monde, y compris l'Asie, n'est-ce pas, et de manière particulièrement réussie en ce qui concerne l'Asie, est-ce qu'il est raisonnable de penser que l'une des options en termes de politique publique, c'est de retourner à l'enfermement national, avec d'ailleurs tout ce qui en dérive, c'est-à-dire de fièvre identitaire, de xénophobie, voire de racisme, de posture anti-migratoire.
Non, mais c'est récupérer des outils de souveraineté, de pilotage de la politique économique.
C'est pas seulement le problème, c'est
nous ne sommes pas dans un supermarché, on va pas récupérer des outils de souveraineté.
Alors, le grand problème,
eh bien, je veux dire, il faut savoir reconstruire l'idée de souveraineté à l'échelle de ce qu'est le monde aujourd'hui. Ce qui manque dans le débat présidentiel en ce moment, c'est, au-delà du tout l'un ou tout l'autre, d'essayer de comprendre ce que veut dire être souverain dans le monde tel qu'il est. C'est là qu'il y a un défaut programmatique et c'est là que l'on précipite les électeurs français dans un faux choix, c'est-à-dire livrez-vous au jeu de l'intégration ou livrez-vous au jeu du verrouillage de la porte.
Non, mais on peut dire deux choses.
Henri Sterdignac et puis le standard.
D'une part que le même problème se pose aux États-Unis avec la victoire de Trump. Posé en Grande-Bretagne avec le Brexit. Et dans aucun cas, on peut dire c'est un enfermement national. C'est simplement, il faut quand même voir que les technocraties, dans tous ces pays, les classes dirigeantes ont choisi la mondialisation, la globalisation financière, sans tenir compte des problèmes qui se posent aux classes populaires et aux travailleurs. Et
oui,
ce
n'est pas résolu par le protectionnisme.
Je dis simplement que toute stratégie doit tenir compte de la position des classes populaires et de plus en plus d'une partie importante des classes moyennes. Et quand on a des stratégies dans lesquelles on dit on va ouvrir à tout vent et c'est pas grave, on va mettre en concurrence les travailleurs français avec les travailleurs des pays à bas salaire, on va réclamer des taux de rentabilité élevés dans les entreprises, et naturellement, ça craque. Alors, effectivement, on peut toujours dire aujourd'hui, pendant 15 jours, on va dire ce discours, il est utilisé, il est dévoyé par Madame Le Pen. Oui, bien sûr. Malheureusement, ce discours, il est dévoyé par un parti xénophobe et raciste, on le sait. Le problème, c'est que la question, elle demeure. Et la question demeure.
Stéphane au standard, bonsoir et bienvenue sur France Inter.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons. Oui, bien, très bien, parfaitement.
Voilà. Bonjour.
Bonjour.
Simplement, avant de poser ma question, j'aimerais simplement rebondir sur ce qui a été dit sur le Brexit. Vu comme un enfermement par un de vos spécialistes, il ne faut pas oublier quand même que la Suisse, qui est un tout petit pays, qui n'est ni dans l'euro... Vous m'entendez ?
Parfaitement bien, allez-y.
Voilà. La Suisse qui n'est ni dans l'euro, ni dans l'UE, enfin qui n'a pas l'euro, qui n'est ni dans l'UE et qui n'est pas dans l'OTAN, est quand même le pays qui reçoit le plus au monde de conférences internationales. Donc elle n'est pas du tout coupée du reste du monde. Ça, c'est une chose qu'on a essayé de nous inculquer, mais qui est fausse. Ensuite, je souhaiterais dire que, contrairement à ce qui a été dit dans l'émission, mais aussi avant votre émission, parce que j'écoute France Inter depuis plusieurs minutes, Madame Le Pen ne souhaite pas partir de l'Europe, elle souhaite faire des réformes comme le souhaitait M. Mélenchon. Et faire des réformes au niveau de l'Europe, vous savez très bien, vous autres spécialistes, et je vous remercie pour le...
Ah, on vous a perdu. Allez-y.
Je suis là.
Allez-y, reprenez.
Je voulais dire... oui, donc Madame Le Pen... et M. Mélenchon ne proposaient pas de sortir de l'Europe, mais de faire des négociations pour arriver à des traités qui soient un peu plus favorables envers la France. Mais vous savez bien qu'avec 28 États qui doivent être unanimes sur les questions, c'en est impossible, puisque nos frères polonais et nos frères roumains, qui n'ont pas les mêmes charges, le même rythme de vie, etc., et c'est normal, ne voudront pas que nous-mêmes on puisse baisser nos charges ou baisser notre TVA pour améliorer la compétitivité des produits fabriqués en France. Ça, c'est une évidence. Et enfin, je voudrais dire, le mot délocalisation, chers messieurs, dames, vous le savez bien, il est dans le dictionnaire depuis 1993. Il fait suite aux accords de Maastricht que le peuple français avait refusé massivement, mais qu'on nous a imposé en force. Avant...
Non. Bon, alors, 1992, pas les accords de Maastricht.
Je termine. Stéphane, terminez rapidement, s'il vous plaît, parce que il faut que la parole circule.
Pour
allez-y.
Vous puissiez comprendre ma question.
On la comprend bien. Hein.
Mais pour vous puissiez comprendre ma question, voilà, il faut que vous puissiez comprendre les bases sur lesquelles je me pose. Et là, on parle de Whirlpool qui va être délocalisé. En 1993, la société Hoover qui vend des aspirateurs s'est délocalisée grâce à l'Europe ou à cause de l'Europe. Mmh. Moi, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce qu'on fait peur aux Français en leur disant que si on...
La ligne est mauvaise, Stéphane. Je suis absolument désolé. On n'entendra pas la fin de la question, mais le début était déjà extrêmement nourrissant. Sylvain Kahn, comment souhaitez-vous y répondre?
En ce qui concerne Whirlpool et Hoover, c'est ni grâce ni à cause de l'Europe. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'Union européenne, si la France n'était pas dans l'Union européenne... Whirlpool pourrait quand même décider de délocaliser. Je veux dire, c'est pas, il faut pas. Moi, j'ai plutôt l'impression, mais j'entends bien que Stéphane va sans doute ne pas du tout être d'accord avec moi, que si la France n'était pas dans l'UE, des délocalisations, il y en aurait beaucoup plus. Et d'autre part, il faut bien voir que la France est en Europe, je parle sous le contrôle de Henri Sterdyniak, le premier pays où les étrangers, c'est-à-dire les entreprises non européennes, investissent. C'est le premier pays de destination des investissements directs à l'étranger faits en Europe. Donc il faut jamais oublier que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on dit on empêche de manière autoritaire d'éventuelles délocalisations, il y en a, mais il ne faut pas faire comme s'il n'y avait que ça. Ça veut dire que du coup, dans l'autre sens, il y aura la réciprocité.
Ce que disait Stéphane également, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas sortir de l'Europe. Ils aimeraient pouvoir...
Ça, c'est pas vrai.
Je cite la question de Stéphane. Ils ne veulent pas sortir de l'Europe, ils voudraient réformer l'Europe, mais à 28, ça n'est pas possible. On ne peut pas réformer cette chose-là, Bertrand Badi, vrai ou faux?
Mais là, notre auditeur met le doigt sur un vrai problème, et j'en ajouterai un second. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, lorsque l'on est 28, comme il le disait, va devenir 27 bientôt, la seule façon d'obtenir le consensus, c'est le statu quo. C'est-à-dire, pour que tout le monde soit d'accord, pour qu'il n'y ait pas de veto, pour qu'il n'y ait pas de blocage, le jeu le plus rationnel, c'est de ne rien changer. Ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'immobilisme de l'Europe, là où le contexte international impose une adaptation très forte des structures et des institutions européennes. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a une vraie crise des institutions européennes. Et là aussi, on n'en parle pas. Parce que ceux qui veulent sortir considèrent qu'effectivement, le problème ne vient pas de là. Et ceux qui veulent y rester, effectivement, ont peur de ne pas avoir des solutions pour résoudre cette question. Il y en a un autre. Parce que vous parlez beaucoup de souveraineté. Moi, à chaque fois, j'ai des frissons parce que ce terme est utilisé à tort et à travers. Mais une chose est vraie, c'est que le peuple vote à un niveau et que l'essentiel des décisions dans le cadre européen se prend à un autre niveau. Quand il n'y a plus superposition entre le niveau délibératif et le niveau de décision, on n'est plus dans une logique démocratique. Et le grand problème, moi, la grande question que j'ai envie de poser à tous les candidats à l'élection présidentielle, c'est que ferez-vous si le programme que vous élaborez n'est pas avalisé ou accepté par vos partenaires européens? C'est un vrai problème de démocratie et de politique publique sur lequel on n'entend jamais la moindre
réponse. Oui, mais qui va nous exploser au visage maintenant? Ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on le pressent, qu'on l'attend, qu'on le voit venir, qu'il explose, et maintenant on est en pleine campagne électorale en France, et il se pose à nouveau.
Il y a des propositions.
Nous savons tous
de cette manière. Pour aller dans le sens de ce que dit Bertrand Badie.
Nous savons tous,
Henri Sterdignac,
nous savons tous qu'il existe des choses qui s'appelle des programmes nationaux de réforme. Il existe des plans de stabilité que l'Europe, que soi-disant nous avons adopté en concertation avec les institutions européennes, et que tout pays, lorsqu'il change de gouvernement, qui veut s'éloigner de ce qui a été décidé, si on peut dire, eh ben, se retrouve en proie aux pires difficultés et aux pires menaces. Hein. C'est l'exemple de la Grèce. L'Europe est un corps peut-être mou, peut-être dont on peut penser qu'il ne fonctionne pas, n'empêche qu'il mord, et on voit avec la Grèce, on va le voir avec la Grande-Bretagne, c'est un corps qui veut absolument imposer un certain nombre de réformes structurelles et un certain nombre de marches vers le modèle libéral. Et donc, à partir de là, on voit très bien qu'il y a trois solutions. La première, celle de M. Macron, qui consiste à dire, eh ben, on va obéir, on va effectivement, pendant quelques années, accepter le plan national de réforme et le pacte de stabilité. Donc, à ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Il y a la stratégie aventureuse, disons-le, de Mme Le Pen, disant, on va sortir. Et puis, il y a une troisième stratégie consistant à dire, il faut faire une alliance en Europe, effectivement, pour changer d'Europe et pour aussi bien
de quelle nature
une alliance avec un certain nombre de pays, une alliance politique avec un certain nombre de forces syndicales et politiques. Oui, il y a un problème en Europe.
Et le problème aujourd'hui, Henri Sterdignac, ça vous semble possible de réformer l'Europe? Parce que vous avez parfaitement décrit les scénarios. Le troisième que vous évoquez, celui d'une alliance, on voit intellectuellement à quoi il pourrait ressembler. Mais est-ce que c'est possible,
Le troisième, ça fait courir le risque, on le sait, du blocage total, parce que certains pays ne l'accepteront jamais. Et le problème, c'est qu'on est actuellement dans une situation sans issue. On peut en discuter longtemps. Il faut dire clairement, l'Europe actuellement, c'est un carcan et il n'y a pas de solution claire. Bon, il faut attendre une crise importante pour que ça change. Mais
là, on y est, hein, quand même. Ben Sylvain Kahn.
Ben, alors, des solutions, évidemment, il n'y a pas de bing-bang possible. Mais pourquoi il n'y a pas de bing-bang possible? Pour deux raisons. D'abord, parce que ça a été dit, il y a un certain nombre d'intérêts qu'on pourrait presque qualifier d'intérêts de classe, qui, de manière transnationale, n'ont pas forcément envie que les choses changent. Et effectivement, moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que, quelles que soient les réformes qu'on mettra en œuvre ou qu'on ne mettra pas en œuvre, si les Européens, les dirigeants européens, ne s'attaquent pas à la réduction des inégalités, quelle que soit la réforme, ça ne marchera pas. Donc ça, pour moi, c'est le chantier numéro un. Et j'ai envie de dire, ça dépend pas... Il faut changer les institutions, mais on peut le faire sans changer les institutions. Bon, maintenant qu'on a dit ça, je crois que dire que il y a aucune solution à court terme ou pour essayer de changer les choses, c'est un peu sévère.
Mais c'est faux.
Non, c'est pas faux. C'est-à-dire que, c'est pas exact. Si on prend le programme de Hamon ou le programme de Macron, tous les deux proposaient pour Hamon et proposent pour Macron un Parlement de la zone euro. C'est-à-dire une tentative pour essayer de mettre de la démocratie et de la souveraineté populaire dans cette Europe de l'euro où, pour l'instant, seuls les chefs d'État et de gouvernement et la Banque Centrale Européenne décident. Est-ce que ça marchera? J'en sais rien. Bertrand Badie est très pessimiste sur ce genre de rafistolage. Mais en tous les cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui s'en soucie. Et la deuxième chose, Henri Sterdignac le disait implicitement, c'est qu'il y a quand même une caractéristique française consistant à dire « nous ». On sait ce qui va pas, on a trouvé la solution, il n'y a qu'à attendre que des pays soient d'accord avec nous. Ça fait 15 ans que les dirigeants français disent ça, ça fait 15 ans qu'ils sont tout seuls, et donc aujourd'hui...
Et ça fait 15 ans que la colère monte.
En France.
Oui, enfin, pas seulement.
Surtout en France, pas que en France, mais surtout en France.
Bertrand Badie.
Oui, deux choses. Je crois qu'effectivement, le plan C que vous évoquiez, cette coalition, cette alliance, c'est vrai. On en parle, elle reste toujours terriblement abstraite, c'est-à-dire concrètement c'est qui
Qui pourrait participer? L'Espagne de Monsieur Rajoy? Ce serait l'Italie dans son instabilité, il faut bien dire actuellement dans l'anonymat de sa direction? Chypre? Malte? C'est un véritable problème. C'est-à-dire, on ne voit pas cette équation. Et même la verrait-on, et j'en reviens toujours au même problème, on est bloqué par cette espèce de rigidité institutionnelle qui caractérise l'Europe. Alors, est-ce que ce sont des lamentations qui vont se pérenniser d'année en année? Pas forcément. Vous savez, M. Serdignac, je pense, sera d'accord. Le propre de la rationalité économique, c'est quand ça coûte trop cher, on change. C'est-à-dire que ceux qui actuellement croient trouver dans l'immobilisme européen la façon la plus adéquate de réaliser les intérêts de classe dont parlait Sylvain Kahn tout à l'heure, vont à mesure s'apercevoir que tout ceci est extrêmement coûteux. De même que la bourgeoisie et même les Juncker allemands avaient perçu à quel point le fait qu'il n'y ait pas de politique sociale à la fin du 19e siècle était dangereux, déstabilisant et risquait de leur coûter leur couronne. Donc ils se sont lancés dans une politique sociale. Je crois que la politique sociale vient à partir du moment où le risque encouru par l'immobilisme est trop élevé et que, effectivement, les acteurs cherchent une assurance. Là, je crois qu'il y a effectivement une ouverture. Mais ce qui me fait peur, c'est que dans notre ronronnement électoral, ces grands enjeux sont stratégiquement masqués. Parce que Mme Le Pen ne veut pas entendre parler de ce genre de voix, parce que son logiciel nationaliste et xénophobe s'en trouverait paralysé, et parce que M. Macron joue une logique qui est quand même essentiellement de type immobiliste. Donc, on est dans un blocage. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant, bon, à partir du moment où on est dans une situation de blocage, il faut partir de l'Europe, se retrouver tout seul, être dans une logique d'enfermement, et que cette logique d'enfermement, de toute façon, coûtera cher à tout le monde, et en particulier aux classes populaires, il ne faut quand même pas l'oublier.
Ça, c'est sûr.
On peut être dans une logique de blocage et de constitution d'un front. Je veux dire, le problème de la France, le problème aussi de la France, c'est que elle a toujours joué de manière extrêmement floue. Je veux dire, Hollande a accepté de signer un traité budgétaire qui est, du point de vue macroéconomique, n'importe quoi. Et puis, on s'est engagé à réduire fortement nos déficits. Et puis, naturellement, on l'a pas fait. Alors, on aurait été beaucoup mieux il y a 5 ans de dire, ben non. On n'a aucune raison de réduire nos déficits compte tenu de la situation économique. C'est pas la France qui est responsable des déséquilibres en Europe. On était le pays qui était le pays médian.
Donc possible de faire de la politique. Non, à vous entendre, Henri Sterdignac.
On dit non.
La politique de la chaise vide.
La politique qui.
Ou de la porte qui claque.
De la porte qui claque. La politique du général de Gaulle. Bon, ça existait.
C'était un tout autre contexte. C'était une Europe à 6. On était en pleine prospérité. C'était les Trente Glorieuses,
Bien à un moment donné rompre les consensus qui sont mortels.
Mais sauf qu'aujourd'hui, ça veut dire tout seul, quoi. Je veux dire, si.
Tout seul, avec d'autres pays. Il existe des choses qui s'appellent la Confédération Européenne des Syndicats, avec lequel la France pourrait. Dans lequel, bon, voilà, on n'est pas seul.
Il y a aussi un Parlement européen élu au suffrage universel direct.
Il y a un Parlement européen, et c'est un problème, il n'a rien fait.
C'est un problème alors. Une fois qu'on a une institution démocratique en Europe, c'est un problème, c'est quand même gênant.
Le problème, c'est qu'elle n'ait rien fait. Allez, on passe au standard. Dominique, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre ma question. Depuis le début, je ne vous entends pas parler une seule fois d'une solution donc, qui a été évoquée plusieurs fois, l'Europe des 12. Effectivement, c'est très compliqué de faire les choses à 27. Il y a une disparité économique énorme, effectivement, entre la Roumanie et l'Allemagne. Alors, ma question, elle est très simple. Il faut, pour créer une Europe des 12, y a-t-il aujourd'hui des blocages juridiques européens pour arriver à cette Europe des 12, ou ce n'est-il qu'une question politique ?
Merci Dominique pour cette question extraordinairement claire. Sylvain Kahn.
Alors, faire une Europe des 12 au sens où on ferait l'Union européenne à 12, ça aujourd'hui, disons, je ne dis pas que c'est impossible à faire, mais ça supposerait en fait que les 12 pays en question décident de recréer une Union européenne sans les autres. Bon, c'est un choix politique, on va dire, je ne sais pas si c'est à ça que Dominique pensait implicitement. Par contre, ce qui est tout à fait possible de faire dès à présent, évidemment il faut négocier de nombreuses heures et de nombreux jours, c'est ce qu'on appelle des coopérations renforcées. Ça veut dire que sur un certain nombre, sur des projets déterminés, sur des politiques publiques sectorielles, je ne sais pas moi, l'Europe de la défense, l'Europe de l'industrie militaire,
tel ou tel... On avance en groupe, ceux qui veulent avancer, avancent.
Voilà. Et là, effectivement, le minimum, c'est 9 États membres. Donc, la réponse, dans ce sens, la réponse à la question de Dominique, c'est oui.
Et donc, c'est une volonté politique, il n'y a pas d'impossibilité juridique.
Au contraire.
Henri Sterdyniak.
Il y a des projets qui sont sur la table, hein, d'une Europe à trois vitesses, à trois cercles, avec les pays qui veulent avancer, les autres, et puis on ferait un troisième cercle pour les pays périphériques où on mettrait le Royaume-Uni, et puis demain l'Ukraine, le Maroc,
ou la Suisse, la ou Turquie, la Norvège, qui sont déjà
etc. Tout le troisième cercle. C'est le problème, c'est que d'une part, les pays du deuxième cercle, ils ne veulent pas. Naturellement, ils ne veulent pas être des citoyens de seconde zone, donc Ça bloque. Du point de vue juridique, effectivement, ils peuvent bloquer. Et puis ensuite, ça suppose que dans les 12, on soit d'accord. Alors le problème, c'est est-ce qu'on est d'accord dans les 12 pour effectivement donner de plus en plus de pouvoir au niveau fédéral ? On peut toujours parler de défense européenne. La question, c'est est-ce que dans les 12, on a la même vision de ce qu'il faut faire ? Est-ce que l'Allemagne, elle est prête à effectivement intervenir au Mali ? Est-ce que nous, on est prêt à intervenir ?
Vous êtes très pessimiste, Henri Sterdyniak.
Oui,
on vous entendre, rien n'est possible.
Non, mais je veux dire, on peut tout imaginer. Le problème, c'est qu'il faut bien, par exemple, est-ce que effectivement, dans l'Europe des 12, on va renoncer aux règles stupides du traité de Maastricht en matière de dépenses de déficit public ? La réponse est bien sûr non. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas si simple.
Bertrand Badi.
Bah, l'Europe à plusieurs vitesses, elle existe déjà d'un certain point de vue. L'Europe, l'Union européenne, c'est pas l'Europe de Schengen, c'est pas l'Europe de l'euro. Voilà déjà trois Europes qui se distinguent aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que l'on ait pris là un chemin qui vienne radicalement changer les choses. Et ce que dit M. Sterdyniak, moi je le dis aussi et même plus fort, à savoir que je ne vois pas les convergences, y compris dans ce noyau dur, comme on dit, qui serait en train de se constituer. Voyez-vous, ce qui manque, c'est un transformateur. C'est-à-dire comment passer de la délibération populaire, souveraine, au choix politique. Quand on est dans un cadre national, c'est évident. Quand on ne l'est plus, ça devient très compliqué, surtout quand on oublie le transformateur. Pour l'instant, il n'y a pas de transformateur. Alors, puisque vous nous trouvez pessimistes, il y a quand même des voies à ouvrir. C'est-à-dire que si on veut véritablement qu'il y ait une transitivité entre l'électeur qui vote au niveau national et les décisions qui se prennent au niveau européen, il faut qu'il y ait des porte-parole au niveau de l'Europe. Il faut qu'il y ait des partis véritablement européens. Je veux dire, les questions de politique étrangère, les questions de défense, les questions économiques, c'est des questions que les partis allemands et les partis français devraient pouvoir délibérer ensemble pour qu'il y ait une transitivité dans l'expression politique, pour qu'il y ait un choix qui transcende les choix, je dirais, frontaliers, les choix nationaux. Qu'il y ait véritablement un accomplissement de l'Europe au niveau de ceux qui ont un suffrage à y exprimer. Le fait que pour le Parlement européen, on vote de façon séparée dans chaque État des partis différents qui n'ont rien à voir, qui siègent dans des groupes qui sont souvent des groupes bidons, c'est-à-dire dans lesquels la véritable...
Ah, vous exagérez là.
Oh, quand même, bidon, vous exagérez. Quand même, c'est je veux dire, l'homogénéité de la gauche européenne, de la social-démocratie, elle n'existe pas. Et donc, à partir du moment où vous n'avez pas une pensée politique, un débat politique européen, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait aucune transitivité vers les décisions politiques de l'Europe.
L'Europe n'est pas un pays. Voilà. Ce qu'il faut dire une fois pour tout, l'Europe n'est pas un pays, n'est pas un peuple européen. Voilà,
parfaitement résumé, effectivement. Jérôme, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Je vous appelle parce que en début d'année, on avait un petit peu parlé du Brexit Bill. Vous savez, cette facture que la Grande-Bretagne, enfin les Anglais devront acquitter.
La Quenta.
Voilà. Et donc, je voudrais savoir à quelle pourrait être l'estimation du Frexit Bill si jamais la France donc quitte l'Union européenne. Et donc ça, c'est pour la première chose. La deuxième chose, pourquoi est-ce que finalement on n'en parle pas du tout de ce sujet? Je peux pas imaginer que Marine Le Pen n'ait pas intégré cette note dans son calcul financier budgétaire. Et il me semble que, étant donné que les estimations pour le Brexit Bill vont de 4 milliards d'euros à 60 milliards d'euros, ça pourrait être un argument de campagne assez fort pour Emmanuel Macron. Et donc, alors que c'est totalement absent, et voilà.
Eh bien, merci d'avoir posé cette question et inscrit ce sujet dans le débat. Sylvain Kahn.
Bah, en fait, c'est parce que... En vérité, c'est très politique cette question-là. C'est-à-dire que il n'y a pas un chiffre gravé dans le marbre qui sortirait de la cuisse de Jupiter. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, la Commission européenne et tous les États membres, sauf le Royaume-Uni, ont intérêt à donner un chiffrage très très élevé pour mettre la pression sur le Royaume-Uni. En vérité, c'est une négociation et qui se résoudra. C'est-à-dire que on peut prendre selon les critères qu'on prend, on peut arriver à un résultat très élevé, le haut de la fourchette que vous évoquiez ou au bas de la fourchette que vous évoquiez. Et on ferait évidemment pareil si on évoquait le Frexit Bill. Donc, je crois qu'il faut En vérité, il ne faut pas chercher ce que serait un chiffre objectif. Il faut plutôt considérer que on arrivera, ou les Britanniques arriveront à ne payer que ce qu'ils ont envie de payer dès lors qu'ils font des concessions et qu'ils trouvent un bon deal avec les autres Européens.
L'addition, s'il vous plaît, Henri Sterdyniak.
La France et le Royaume-Uni sont des pays riches, plus riches que la moyenne de l'Union européenne. Et donc, actuellement, ils payent en net à l'Union européenne. Et cette aide, elle va aux pays les plus pauvres, à la Bulgarie, à la Roumanie, elle va aux régions en difficulté. Donc, si demain, on sort de l'Union européenne, bon, est-ce qu'on va renoncer à aider les plus pauvres de l'Europe? On voit que c'est un problème délicat. Et bon, c'est pas central, on peut dire. Bon, les 60 milliards de plus ou de moins, il faut dire clairement, c'est pas là-dessus que se joue le problème. Le problème actuellement, c'est le Royaume-Uni veut quitter l'Union européenne. Il faut éviter quand même que ce soit trop dramatique pour les Anglais. Il faudra éviter que c'est des conséquences trop dramatiques pour l'Union européenne. Et le risque, c'est que comme à niveau européen, on est extrêmement borné et extrêmement méchant, il y a quand même la tentation de faire payer les Anglais un max pour... que aucun pays européen ne
c'est
soit...
C'est une négociation, personne n'est méchant.
Oui, d'accord, c'est... mais si, ah oui.
Bah non, non, pour l'instant c'est une négociation.
Ah bah, il faut qu'il paye, le
Royaume-Uni,
faut... le problème,
c'est... Le Royaume-Uni a toujours voulu le beurre et l'argent du beurre, et en étant dedans, maintenant qu'il est sorti, il veut encore le beurre et l'argent du beurre, c'est normal qu'on ait une négociation.
Le problème, c'est est-ce qu'on arrive à une négociation gagnant-gagnant, ou est-ce que l'objectif c'est de faire payer le Royaume-Uni? On a un exemple quand même qui se pose. C'est le problème de la Grèce qu'il faut quand même évoquer. L'Europe, globalement, essaye au maximum d'oppresser ce malheureux pays. Et au Parlement européen, soi-disant élu de manière démocratique, on ne voit pas...
Il n'est pas élu de manière démocratique, le Parlement européen.
Soi-disant élu de manière démocratique. On ne voit pas des députés dire « mais c'est pas possible, on ne va pas continuer à plonger un peuple dans la misère, c'est quand même un problème ». Parce que à l'échelle européenne, il n'y a pas d'opinion publique qui pourrait s'inquiéter du sort de la Grèce. On a des peuples différents, on a des Allemands, et même en France, chez Madame Le Pen, on a des gens dont la grande préoccupation, c'est pas perdre d'argent avec la Grèce.
Quoi. Allez, on en reste là, messieurs, l'heure est grave. Hein. Elle était à 18h15, elle l'est encore plus, si vous voulez mon avis, à 18h55. Bertrand Badi, Henri Sterdyniak, Sylvain Kahn, merci. Tout de suite, l'édito d'Arnaud Le Parmentier.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Du quotidien Le Monde, bonsoir Arnaud.
Bonsoir Nicolas.
Et dans le droit fil de notre discussion, le retour de l'Europe sociale.
Au secours Nicolas, l'Europe sociale revient. La Commission européenne se jette dans la bataille de l'entre-deux tours des présidentielles françaises. Jean-Claude Juncker avait fait inhabituel féliciter Emmanuel Macron dès la soirée du premier tour. Et voilà que la Commission présente ce mercredi tout un paquet social pour contrer les populistes et donc Marine Le Pen. Alors depuis 20 ans, le mot « sociale était un gros mot à Bruxelles, cette rengaine répétée en boucle par les socialistes français avait fini par disparaître. Pour trois raisons. Les riches allemands et scandinaves n'en voulaient pas. « Laissez-nous gérer notre prospérité avec nos syndicats », disait-il. « Les Anglais, encore moins, soyons libéraux, faisons-nous concurrence. La semaine de travail limitée à 48 heures, vous n'y pensez pas, shocking. » Les pays de l'élargissement, encore moins. Votre social, c'est votre manière, Nicolas, de nous mettre des bâtons dans les roues, nous empêcher de travailler et d'être compétitifs alors que nous sommes pauvres. Et les Français, ils se vantaient de leur modèle social qui ne donnait d'appétit à personne. Résultat, on en est resté là avec des directives tellement fades qu'elles ne ressemblaient à rien.
Mais le vent tourne.
Eh ben alors, le problème, c'est qu'on se heurte de plein fouet à la schizophrénie des Européens. D'un côté, ils disent « laissez-nous gérer nos affaires, respecter nos spécificités sociales, que l'Europe ne se mêle pas de tout », et de l'autre, ils dénoncent sans une Europe libérale, lointaine, qui ne s'occupe que des grands agrégats économiques. Bref, le dilemme permanent qui consiste à dénoncer l'Europe sans cesse et à lui demander toujours plus de protection. Alors la donne, effectivement, aurait changé, nous explique que notre correspondante, celle du Monde, Cécile Ducourtue, à Bruxelles. D'abord, les Anglais sont partis, enfin en train de partir. Ensuite, les socialistes veulent redevenir sociaux. Et puis les chrétiens-démocrates aussi, qui ne veulent pas se faire distancier. Les Allemands ont réduit le rôle des syndicats, introduit un SMIC. Et les pays de l'Est commencent à s'enrichir. Les Polonais subissent un afflux d'immigrés ukrainiens, et bien tout d'un coup, ils découvrent eux aussi les vertus mais les vices de ce que l'on a appelé le dumping social. Bref, il y aurait, selon Cécile Ducourtue et surtout de Jean-Claude Juncker, ce qu'on appelle une fenêtre de tir, celle d'une Europe qui protège, comme l'a dit Emmanuel Macron au soir du premier tour.
Et concrètement, il y a quoi dans les tuyaux ?
Bien, il y a toute une série de directives, avant tout indicatives. Alors l'idée progresse d'avoir un SMIC européen qui ne serait pas partout le même, mais fonction du niveau de vie de chaque pays. L'objectif est de combattre les travailleurs pauvres. Seconde piste, défendre l'équilibre vie privée, vie au travail. Vous connaissez ça, Nicolas, avec un congé avec un congé de paternité de 10 jours, un congé parental de 4 mois, et puis aussi une réécriture de la directive sur le temps de travail, car la limite de 48 heures n'est respectée par personne. Alors, franchement, on est très sceptique. Ces mesures ne sont pas contraignantes, elles vont donner lieu à un procès en dénonciation, car forcément, ce ne sera pas suffisant pour les Français qui diront que l'Europe ne fait que mettre des minimums vers lesquels on pourrait converger. Alors, l'Europe n'arrive pas à lutter contre la fraude sur les travailleurs détachés. Elle ferait mieux de se concentrer sur quelques projets très concrets plutôt que d'annoncer l'Europe sociale sans être en mesure de l'imposer. Et le meilleur socle social, Nicolas, c'est la réforme dans chaque pays, celle qui fait baisser le chômage. On a eu 43 000 chômeurs en plus au mois de mars cette année.
Un micro-mot, Bertrand Badi, sur cet édito.
Oui, moi je crois que c'est un problème de composition d'histoires différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, comment peut-on abolir des cultures du social qui ont mis plusieurs siècles à se construire ? Et effectivement, dans ce type de situation, on ne sait pas trancher entre des histoires qui sont censées se conjuguer et qui ne se conjuguent pas. Ça mériterait quand même plus que quelques slogans. C'est-à-dire, ça mériterait une véritable délibération. Vous savez, on n'a pas du tout parlé, heureusement, du couple franco-allemand. C'est-à-dire que dès que les choses ne vont pas, on dit « il faut relancer le couple franco-allemand et trouvera la solution ». Oui, mais sur quelle base ?
Merci Bertrand Badi, merci Arnaud Leparmentier. À 19h20, la suite de notre édition spéciale du Téléphone sonne. Ce soir, le paysage politique à droite, on a parlé du paysage politique à gauche hier. La droite sort, elle aussi, fracturée de la présidentielle. Le FN est en tête, le parti Les Républicains éliminé. Chez Les Républicains, le débat a été immédiat. Il faut changer de ligne pour les uns aller vers le centre, pour les autres durcir encore le discours de la droite. On essaye d'y voir plus clair avec vous, amis auditeurs. 01 45 24 7000. Merci d'écouter Inter, il est 19h22.
France Inter, le 18-20.
Avec la suite de notre édition spéciale du Téléphone sonne, le paysage politique français après le premier tour de la présidentielle. Hier soir, nous parlions de la gauche, ce soir, nous parlons de la droite. Elle est sortie bouleversé de ce premier tour, le FN qualifié pour le second tour, le parti Les Républicains éliminé, vivant à son tour après et cette année avec la gauche, son propre 21 avril. Par-delà la situation de François Fillon et de ses affaires judiciaires, le débat sur la ligne idéologique a immédiatement surgi. Aller vers le centre, rassembler à la gauche du parti Les Républicains, ou au contraire, forger une ligne culturelle, identitaire d'une droite plus dure. Le chantier s'annonce long, il est passionnant sur le plan intellectuel et on en débat jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, Le téléphone sonne.
Les invités du téléphone sonne, Jérôme Jaffray, politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, Dominique Régnier, le directeur général du think tank Fondapol, Gilles Richard, avec nous en duplex de France Bleu Touraine à Tours, historien et spécialiste des droites. Bonsoir messieurs, et merci d'avoir accepté notre invitation à débattre. Première analyse, Jérôme Jaffray, premier tour de table. Comment décririez-vous le paysage à droite après ce premier tour ?
Pas loin du champ de ruines, bien sûr. Hein. La droite est éliminée à l'issue du premier tour de la présidentielle. C'est la première fois depuis que les élections présidentielles ont lieu au suffrage universel, depuis la réforme du général de Gaulle, depuis 1965. Et la droite, naturellement, elle devait gagner ces élections d'alternance. C'était attendu, c'était la logique. Alors, la grande question qu'elle doit trancher et sur laquelle elle doit réfléchir assez vite, c'est quelle est la cause profonde de cette défaite ? Est-ce qu'elle tient à François Fillon personnellement, aux affaires qui l'ont assailli ? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond qui tient à une relation de la droite avec les Français au-delà de son petit socle, parce que c'est maintenant presque devenu un petit socle de 20% des voix, est-ce que c'est sa relation avec les Français qui est profondément altérée ? On a des choses sur la sociologie du vote à cette élection présidentielle vraiment extrêmement préoccupant pour la droite en France, c'est-à-dire par exemple les ouvriers, le comportement électoral des ouvriers, 5% seulement des ouvriers, selon Ipsos, ont voté pour François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle. Alors, Fillon a fait 20%, 5% chez les ouvriers. Je me suis amusé à regarder le général de Gaulle en 1965. Il faisait 44% des voix au premier tour de scrutin, déjà autre chose, mais il faisait 43% chez les ouvriers en 1965. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune différence sociologique. La France d'en bas, comme on dit aujourd'hui, la France... Or, aujourd'hui, vous avez une rupture du salariat, une rupture des jeunes, qui se voit profondément avec la droite et qui fait du coup que ça me paraît dépasser de loin le problème pur de François Fillon.
Dominique Régnier, même question, analyse du paysage politique à droite après le premier tour.
Moi, je reprendrai volontiers l'idée de Jérôme Jaffray d'une crise profonde avec des causes qui sont antérieures à la défaite. Je pourrais même comparer la droite française à l'Empire austro-hongrois. Il y avait des...
C'est très antérieur, alors.
Il y avait des communautés différentes, des sensibilités différentes qui arrivaient à vivre ensemble, mais qui étaient très différentes. Et disons que l'attentat de Sarajevo, c'est l'élimination de François Fillon, quelque chose comme ça. Et ça fait éclater la droite. Tout en quoi, ça pourrait la faire éclater. Parce que aujourd'hui, évidemment, les fractures qui se révèlent... Une partie peut être aimantée par le macronisme, j'imagine qu'on en reparlera.
On va en reparler,
bien sûr, une partie va être aimantée par le Front National, on en parlera aussi. Il va rester quelque chose comme la petite Autriche, c'est très peu. Mais il y avait de toute façon de l'artifice dans cet ensemble antérieurement à cette élection. Et cela se voyait déjà, je pense, dans le fait qu'il y avait eu une crise sur la question du leadership. C'est d'ailleurs pour ça que cette droite a eu recours à une étrange procédure qui était les primaires. Signe clair qu'il n'y avait pas de chef puisqu'il fallait une procédure pour en désigner un. Le chef désigné par la procédure est éliminé sèchement. Donc maintenant, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de procédure. Il n'y a pas d'élection autre que les législatives, mais savoir qui les conduit, c'est compliqué. Et je crois que les lignes qui commencent à apparaître pourraient être interprétées, c'est pour ça que je suis sensible à ce que vient de dire Jérôme Jaffray, ça pourrait être interprété comme la conséquence de cette défaite, mais en réalité, ça ouvre ou rend visible des clivages qui étaient déjà là de manière très, très nette.
Même question pour vous, Gilles Richard, historien, spécialiste des droites. Vous n'êtes pas ici en studio à Paris, mais en duplex depuis les studios de France Bleu Touraine à Tours. Analyse du paysage politique à droite après le premier tour.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je ne partage pas l'avis de Jérôme Jaffray ni de Dominique Régnier. Si champ de ruines il y a, c'est du côté des Républicains, du parti Les Républicains. Champ de ruines du système partisan plus largement, mais je constate que au second tour, les deux candidats qui vont s'affronter sont issus de deux familles politiques anciennes qui relèvent des droites, la famille néolibérale et la famille nationaliste. Donc, d'un côté, Emmanuel Macron, qui va être le porte-parole des néolibéraux et qui d'ailleurs rassemble actuellement, obtient le soutien de tous les grands leaders néolibéraux, et Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes ou quelques heures, et de l'autre côté, Marine Le Pen, qui représente le Front National. Donc, champ de ruine du système partisan, effondrement des deux grands partis qui ont prétendu monopoliser la vie politique, mais du point de vue des droites, des familles politiques sur la longue durée, plutôt une bonne tenue, la preuve, puisqu'il y a deux candidats des droites.
Alors cette analyse mérite un nouveau tour de table avant de donner la parole aux auditeurs de France Inter. Jérôme Jaffray, donc la droite a triomphé en fait, et on s'est tous trompés dans le premier round d'analyse.
Dit comme cela, je ne pense pas que Gilles Richard partagerait votre conclusion. Non, il me semble quand même qu'Emmanuel Macron ne peut pas être classé dans la famille de la droite, même si elle peut être considérée très largement. C'est beaucoup plus diffus et complexe que cela. Macron appartient en partie aux familles du centre-gauche, donc c'est autre chose. Le ralliement des grands leaders dont parlait Gilles Richard vers Emmanuel Macron, c'est un soutien de second tour parce que est limité aux circonstances, effectivement. Léon Blum, en 1924, puisque nous sommes dans l'histoire, je dépasse l'Empire austro-hongrois. Léon Blum, à propos du cartel des gauches, où les socialistes se trouvaient obligés de voter pour des candidats radicaux, disait que c'est une alliance le temps d'une minute. Le vote que vont émettre ces leaders de droite qui l'ont annoncé en faveur d'Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, c'est le temps d'une minute, glisser son bulletin dans l'enveloppe dans l'urne, et ensuite le combat reprend. Emmanuel Macron ne fait pas partie de la droite, et la droite entend bien le lui dire. Quant à Marine Le Pen, c'est vrai qu'elle appartient à la tradition nationaliste, mais quand même, il s'agit plutôt de l'extrême droite que la droite, et aujourd'hui d'un adversaire redoutable pour la droite. L'un des problèmes de la droite, c'est précisément d'éviter, Dominique Reynier le disait, le risque d'être attiré, d'être aimanté vers le Front National. C'est à côté de la victoire d'Emmanuel Macron et de la défaite que connaît aujourd'hui la droite partisane, oui, reprenons l'expression, elle est juste, nous avons le risque pour la droite de voir son électorat glisser vers le Front National et le Front National mener une OPA sur la droite française, la droite partisane, la droite classique française, et là, effectivement, il y a un danger pour la droite qui inquiète énormément celle-ci aujourd'hui.
Dominique Reynier.
Oui, je partage cette analyse. Je trouve intéressante l'hypothèse de Gilles Richard. On comprend effectivement l'idée qu'il y a des sensibilités qui se retrouvent chez Emmanuel Macron en particulier, puisque là, il s'agit de... C'est là que la thèse est la plus intéressante. En même temps, ce qui m'a beaucoup frappé dans les réactions de la droite républicaine, tout particulièrement depuis la défaite, ils se sont empressés de s'interroger très très vite, et il faudra qu'ils le fassent, sur les raisons de la débâcle. Ça a porté sur la personnalité de François Fillon, ce qui est la thèse trop facile en réalité. Ça a joué certainement, mais c'est trop facile. Et pour être suffisant, et on a beaucoup déjà entendu parler, moi ça m'a frappé, d'une critique qui portait sur le programme, et qui était au fond, qui consistait à dire, c'est un programme libéral et c'est pas possible. Peut-être d'ailleurs que c'était déjà l'idée que les ouvriers ne pouvaient pas écouter un tel programme, et que conséquemment ils ne seraient pas là.
Programme parfait pour gagner une primaire, mais ensuite voilà. Plus compliqué.
Et moi ce qui m'a frappé, c'est qu'au fond, la droite française, droite de parti, les Républicains, presque immédiatement, a retrouvé ce sillon social-étatiste duquel elle n'a jamais vraiment réussi à s'extirper. Et la vraie question de la droite en France depuis de nombreuses années, c'est d'arriver à se singulariser. Au fond, François Fillon a tenté de le faire d'une certaine manière, c'est un échec. Les premières réactions de la droite, Darmanin, Estrosi, etc., sur le fond, eh bien, laissent penser que elle n'a pas trouvé de réponse, et que l'on revient plutôt à la situation antérieure, une grande indétermination qui faisait dire à beaucoup de commentateurs, en France, il y a deux partis de gauche, dont un s'appelle la droite.
Éric, bonsoir.
Bonsoir France Inter, bonsoir à tous.
Vous nous appelez de Bretagne et nous vous écoutons.
Écoutez, moi je suis électeur de droite traditionnelle depuis longtemps, j'ai à peine 50 ans, et je suis quand même atterré de voir que ceux qui appellent à voter extrême droite Marine Le Pen, des Boutins et compagnie, soient toujours maintenant aux républicains. C'est le moment de foutre ça, ces gens-là dehors et de reconstruire, je pense, un parti républicain, quel qu'il soit, mais beaucoup plus modéré et s'allier maintenant avec tous ceux qui sont contre le fait de voter Marine Le Pen. C'est évident, je fais pas partie du tout de ces gens-là. Et voilà, je me sens à des années-lumière de Boutins et compagnie. Et
alors, c'est qui vous mettez qui, Eric, dans la compagnie derrière Christine Boutin?
Tous les extrémistes catholiques intégristes ou entre guillemets intégristes qui font que déshonorer, je pense, le fait d'appeler à voter de Marine Le Pen. Je trouve ça vraiment scandaleux. Je trouve ça, c'est vraiment ignoble.
Et donc vous voyez plutôt, puisque c'est votre famille de pensée et le parti pour lequel vous votez, vous voyez plutôt les républicains ou ancrés à droite, au centre droit, quand même avec une droite plus ferme. Il y a plusieurs hypothèses possibles. La vôtre serait laquelle?
Moi, je pense qu'il faut une droite juste, il faut une droite beaucoup plus axée centre-droit, c'est évident pour moi, mais ça c'est mon point de vue personnel. Maintenant, il y aura toujours des gens qui seront toujours à droite de la droite et à gauche de la gauche, mais moi je trouve que il faut aller bien sûr vers un centre-droit, et bien sûr, et si Macron a des bonnes idées, je vois pas pourquoi on n'irait pas voter, ce qui va être très très intéressant aussi pour l'ensemble des Français. Je trouve que c'est complètement idiot de faire tout de suite systématiquement contrer pour le plaisir de contrer, forcément.
Merci Eric pour cette intervention. On va donner la parole à Gilles Richard à Tours et on revient à Paris. Jérôme Jaffray, Dominique Régnier. Gilles Richard, que répondez-vous à Eric?
Eh bien, j'ai écouté cet auditeur et j'ai constaté qu'il corroborait en quelque sorte mon analyse. On a bien une recomposition en cours du système partisan et je pense que c'est autour d'Emmanuel Macron qui se dit de centre pour le moment, mais qui est d'abord, selon moi, un représentant des néolibéraux, que va se recomposer le système partisan et une force politique qui va intégrer toute une partie des socialistes qui ont renoncé au changement économique et social profond, l'UDI, et toute une partie des républicains. Je pense par exemple à Jean-Pierre Raffarin, qui, à mon avis, ne se contentera pas, quoi qu'en pense Jérôme Jaffray, de voter seulement pendant une minute pour Emmanuel Macron, mais
et donc on aurait
un soutien pour Emmanuel Macron à long terme.
On aurait, Gilles Richard, si on vous suit, disons En Marche, sous réserve que ça garde le même nom, flanqué sur sa droite du Front National et sur sa gauche de la France Insoumise.
On aurait une recomposition de la famille néolibérale autour d'une force politique autour d'En Marche qui changera de nom. De l'autre côté, on aura une grande force nationaliste autour du Rassemblement Bleu Marine. Et puis, il y aura une tentative d'une force de gauche autour de la France Insoumise. Voilà. Oui.
Jérôme Jaffray.
Oui, d'abord, je salue Eric qui nous a dit qu'il était électeur de droite de 50 ans. Je veux lui dire que c'est un jeune électeur de droite. Quand on regarde l'âge des électeurs de François Fillon, c'est absolument impressionnant. Il a à peu près fait 10% des voix parmi les moins de 60 ans et près de 40% chez les plus de 60 ans. Ce déséquilibre démographique explique aussi le désastre de la droite qui finalement s'est remise uniquement sur la clientèle et le corps électoral le plus âgé, coupé à la fois du salariat et des jeunes, mais les jeunes qui vont très loin puisqu'Éric est un électeur jeune de droite. Non, ce qu'il y a derrière, me semble-t-il aussi, c'est la difficulté pour la droite de garder le parti unique à l'évidence.
La maison
commune. C'est-à-dire la création de l'UMP de 2002, faite dans la foulée d'ailleurs de la qualification de Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle de 2002, là, l'unification des tendances de la droite dans un seul parti pour assurer finalement la certitude de la qualification pour les seconds tours des élections présidentielles et la domination aux élections législatives, il y a un problème aujourd'hui, évidemment, qui est le problème de trop de différences idéologiques et probablement le retour à des partis, à au moins deux partis à court terme, parce que je ne crois pas que le paysage sera aussi simple que celui que nous a décrit Gilles Richard. Le fait de ramener à trois forces en tout et pour tout la France insoumise d'un côté, le grand espace central à la Giscard, les deux Français sur trois qui se rassemblerait autour d'En Marche et le mouvement nationaliste à sa droite, non, nous aurons des mouvements de centre-gauche, le Parti Socialiste continuera d'exister, peut-être même avec une branche socialiste plus dure et une branche centre-gauche prête à rentrer dans une majorité macroniste. Et à droite, nous pouvons également avoir un mouvement où il y a une partie, effectivement, qui accepte de collaborer avec Emmanuel Macron. Et là, je suis d'accord, ça dépassera évidemment le temps d'une minute. Pas sûr que ça fasse 5 ans, cela dit, hein, mais enfin, ce sera plus long qu'une minute. Et un parti de droite qui, lui, essaiera de préparer l'alternance, la critique. C'est-à-dire qu'il y aura des tas d'oppositions à Emmanuel Macron, en réalité.
Donc, ce n'est pas une simplification du paysage.
Non, au contraire, je pense que nous aurons un éclatement du système partisan, mais certainement pas sur 3 forces.
Dominique Régnier.
Oui, moi, je crois beaucoup à l'éclatement du système partisan. Précisément, l'échec des deux, entre guillemets, des deux grands partis, que sont le Parti Socialiste, les Républicains, auxquels on peut associer l'UDI comme une sorte de prolongement. Leur échec et l'échec des machines qui, jusque-là, malgré tout, régulaient l'offre politique et la tenaient assez fermement, cette explosion va donner lieu à une fragmentation et ce sera un système beaucoup plus diversifié, plus fragile aussi dans les coalitions et les majorités auxquelles il pourra donner lieu. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'intervention de l'auditeur Eric, ce que j'ai trouvé très, très, très bien exprimé, c'est l'incompatibilité au sein de la droite sur la question de l'appel à voter ou pas, de la clarté, je dirais, de la situation vis-à-vis de Marine Le Pen. C'est une ligne qui est historiquement très importante. Enfin, ça s'est beaucoup joué là-dessus autour de Chirac, on s'en souvient, bon, pour un tas de raisons. Mais enfin, c'était une ligne qui était considérée comme absolument essentielle et tout à fait centrale. On voit bien que nous ne sommes plus du tout dans la même situation en 2002-2017. C'est absolument impressionnant d'observer la différence. Il n'y a plus de Front Républicain en réalité en 2017. Et donc, à droite, on s'est émancipé de cet interdit et on voit bien que c'est, en un sens, irréparable. On ne peut pas se réconcilier s'il n'y a pas un appel très clair à voter pour Emmanuel Macron. Ça renvoie bien sûr à ce qu'est l'extrême droite, à travers Marine Le Pen. Ça renvoie aussi, je le dis là, à un sujet absolument fondamental qui est le rapport à l'Europe. Et évidemment, il y a au sein, y compris des Républicains, un rapport à l'Europe qui peut relever du contentieux, avec une opposition assez forte. Mais c'est une ligne essentielle qui sépare exactement le Parti Républicain de la culture de gouvernement. Donc on avait ce problème à gauche, on l'a aussi à droite, et on voit bien comment il ne suffira pas de laisser passer un peu de temps pour que tout ceci s'efface.
Gilles, bonsoir, vous nous appelez de Lyon et nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Alors moi je voulais revenir un tout petit peu sur la primaire des Républicains.
Oui.
En fait, qui a été contre Sarkozy, puisque Sarkozy ne voulait pas du tout cette primaire. Il a perdu alors qu'il avait quand même un programme relativement modéré par rapport à Fillon, si on se rappelle bien. Et je dirais qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier dans cette recomposition, mais il aura toujours un rôle important, ne serait-ce que pour des alliances et pour mener les élections législatives. Moi, je pense que du fait qu'il y a eu cette défaite au niveau des Républicains, il est en position de quelque part, de manipuler le parti et de revenir un petit peu à sa tête pour faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire diriger le parti.
Gilles, vous avez participé comme électeur à la primaire de la droite, et si oui, avez-vous voté pour Nicolas Sarkozy ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout, c'était une analyse extérieure, c'est ça ?
Non,
d'accord, bien compris. Gilles Richard, sur le rôle de Nicolas Sarkozy. Merci Gilles, pour votre question.
Alors, je pense qu'il est peu probable que Nicolas Sarkozy revienne à la tête des Républicains.
Il a peut-être plus de pouvoir en coulisses.
La situation dans laquelle se trouvent les Républicains aujourd'hui, c'est de sa responsabilité. C'est-à-dire qu'il a, alors que l'UMP a été fondée en 2002 par Alain Juppé, hein, je le rappelle, pour regrouper sur un peu le même mode que Valéry Giscard d'Estaing l'avait fait en 78, quand il avait fait l'UDF, pour regrouper les néolibéraux, les démocrates chrétiens, les radicaux, et puis tendre une main vers les socialistes type DSK. Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, puis candidat à la présidentielle de 2007, a ramené, a modifié la stratégie de l'UMP et a tenu une ligne néolibérale en y ajoutant un discours identitaire pour essayer de capter les électeurs du Front National. Et c'est cette contradiction qu'il a instaurée et qu'il a institutionnalisée en quelque sorte dans le parti qui a peu à peu déchiré l'UMP. Et c'est sur cette ligne, au fond, que aussi François Fillon a mené campagne. Hein, une politique, un projet de société néolibérale et en même temps une proposition de morale collective, on va dire, qui faisait référence au catholicisme traditionnaliste. C'est une contradiction intenable.
Jérôme Jaffray.
Oui, un mot sur la primaire que notre auditeur Gilles, lui aussi, posait justement la question sur la primaire, parce que c'est aussi un sujet de réflexion aujourd'hui pour la droite. Parce que cette primaire, elle a abouti effectivement à un choix idéologique très marqué, favorable à François Fillon, qui a proposé la synthèse conservatrice libérale absolument parfaite dans un schéma de droite totale. On ne voulait pas de Sarkozy pour des raisons personnelles, d'image personnelle, et on n'a pas voulu finalement de Juppé en craignant que politiquement, je dirais, il ait une ligne un peu centre mou qui a inquiété un certain nombre d'électeurs de droite. Mais ça s'est retourné comme un piège finalement, parce que d'une part, une fois que vous avez désigné quelqu'un avec plus de 4 millions de participants, il a une légitimité si forte que Fillon a dit « j'y reste ». Il a été impossible de le sortir, ce qui veut dire qu'il faudra donc à l'avenir des procédures de destitution du vainqueur de la primaire si des problèmes judiciaires interviennent, par exemple, sur le candidat vainqueur. Et puis, il y a eu un problème de programme. C'est-à-dire que le programme présenté par Fillon allait parfaitement pour la primaire, il n'allait plus du tout pour la présidentielle, il a inquiété. Dès le mois de décembre, dès le début janvier, avant même les publications sur les problèmes personnels, les affaires personnelles de Fillon, je me souviens par exemple d'avoir été sidéré d'un sondage dans lequel il apparaissait que 50% des sympathisants républicains interrogés à la mi-décembre déclaraient être inquiets du programme de François Fillon sur le plan sécurité sociale, problèmes de santé, augmentation du temps de travail sans augmentation du temps du salaire, sur le fait qu'on allait accroître tout de suite l'âge de la retraite, etc. Il y avait tout un ensemble de choses. Et là, le débat de l'entre-deux-tours des primaires est terrible, car c'est Juppé qui a révélé tout ça aux Français dans le débat de l'entre-deux-tours de la primaire. Ça n'a pas profité à Juppé, mais il a démoli le programme de Fillon et l'a expliqué aux Français. Donc la primaire aussi devient un piège redoutable parce que le candidat vainqueur croit nécessaire de garder impeccablement son programme au lieu de faire une nouvelle synthèse une fois la primaire finie en disant « tenons compte du débat qui a eu lieu et ajustons le programme ». Parce que sinon c'est un piège qui devient terrible.
Piège rude, hein, Dominique Régnier, effectivement, que cette primaire. À la fois pour des questions de personnes et comme vient de le dire Jérôme Jaffray, sur des questions de programme.
Oui, c'est un sujet vraiment tout à fait important. Alors, c'est pas le sujet, les primaires, donc je veux pas développer trop, mais il y a un problème de fond qui peut même laisser penser que la primaire, remporter une primaire peut même vous faire perdre. On peut penser qu'il y a une relation de cause à effet. Je vous donne juste un argument. Je pense qu'il n'est pas simple dans l'esprit des Français, tous électeurs, d'accepter qu'une partie d'entre eux et cette capacité à choisir les candidats à l'élection présidentielle. Je pense qu'il y a un problème là dans la philosophie même de l'élection présidentielle. Et c'est une des difficultés de cette opération. Je suis un peu étonné de ce qui a été dit par Gilles Richard sur le programme de François Fillon. C'est rétrospectivement qu'on peut le juger sévèrement parce qu'il a perdu. Mais la combinaison d'une approche économique ouverte au monde, à l'entreprise, à la création de richesses. Et d'autre part, la défense de valeurs, d'une culture, dans une France, faut pas l'oublier, qui est, sinon obsédée, très préoccupée par l'altération de ses traditions, de ses valeurs, de sa façon de vivre, etc. C'est sur le papier, c'est pas un mauvais programme, c'est une bonne combinaison. Ça a été présenté de façon un peu rude. François Fillon est allé jusqu'à se réclamer d'une certaine manière de Margaret Thatcher. C'était quand même très très osé de faire ça. On peut pas dire qu'il n'ait pas agité des chiffons rouges. Mais ce modèle associant libéralisme économique et conservatisme culturel est un modèle qui, alors là, théoriquement comme pratiquement, peut fonctionner très bien. Mark Rutte, je sais que c'est les Pays-Bas, mais a été élu comme ça. Il a empêché la victoire des populistes exactement sur ce programme-là.
Encore une question sur la primaire de la droite. Daniel, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci de prendre ma question. Enfin,
Allez-y. On vous écoute.
Ça vient d'être dit en quelque sorte, parce que pour moi, on nous a volé les primaires de la droite et du centre. Ça s'est soldé par une primaire de la droite dure. Donc on a éliminé Juppé qui avait un boulevard devant lui. Il aurait dû être président parce que tous les Français souhaitaient quand même Juppé. C'était pas seulement les gens de la droite et surtout les encartés de la droite. Voilà, ils ont choisi la droite dure. Ça n'était plus la droite du centre aussi. Et donc, Juppé pensait à tout le monde, alors que Fillon, ça a été vu plutôt pour les riches et les grandes entreprises. Et alors que normalement, Alain Juppé aurait dû être très apprécié. Mmh. Mais seulement quand on pense à tout le monde, on appelle ça de la mollesse. Voilà, c'est regrettable.
Merci Daniel pour cette analyse sur Alain Juppé, Gilles Richard.
Oui, bien sûr, Alain Juppé, si Alain Juppé avait été candidat...
S'il avait gagné, il aurait gagné, si j'ose dire.
Le phénomène Macron aurait très certainement été fortement réduit, et il est probable que Alain Juppé aurait gagné l'élection. Enfin, si tant est qu'on puisse faire des pronostics comme ça. Je reviens juste sur ce qu'a dit Dominique Reynier. Mon opinion sur le côté contradictoire du programme de François Fillon, je l'avais avant même qu'il perde. Je l'ai dit et écrit bien avant. Hein. Et tout simplement parce que il se situe dans la même ligne que Nicolas Sarkozy, avec des variantes sur la question morale, mais ce programme de Nicolas Sarkozy, cette stratégie a échoué en 2012 et elle avait déjà montré des signes de faiblesse dès 2011. LR n'arrive plus à endiguer la montée du Front National. Voilà.
Sur Alain Juppé de Jérôme Jaffré, un petit tour de table rapide et vital au standard.
Écoutez, Alain Juppé, extraordinaire candidat, non, il aurait peut-être été un très bon président, mais ça n'a pas été un bon candidat. Comme il n'a pas été un bon candidat durant la campagne de la primaire, supposé qu'il aurait été un très bon candidat ayant gagné la primaire pendant la campagne présidentielle me paraît un peu hasardeux. Parce qu'à la vérité, il n'a pas non plus manifesté un talent manœuvrier exceptionnel en janvier, quand la candidature Fillon a battu de l'aile, quand Fillon était pratiquement poussé vers la sortie. Juppé n'a lancé aucune offensive, alors c'est le béaba de la politique. Si le général de Gaulle, en mai 1958, c'est un peu une émission avec des professeurs d'histoire ce soir, en mai 1958,
vous
alliez
dire avec des vieux.
Si le général de Gaulle avait dit en Algérie qu'il comptait faire l'indépendance aux militaires, qu'il allait les faire rentrer dans le rang, et aux politiciens de la 4e République qu'il allait tous les faire battre, il n'aurait jamais été rappelé au pouvoir. Il y a un moment où il faut faire un certain nombre de concessions et faire preuve d'un minimum d'habileté pour prendre les rênes de la politique. Or ça, Juppé y a manqué. Et puis dans le phénomène Macron, il y a quelque chose qui est l'anti-Juppé. C'est une demande de renouvellement générationnel absolument énorme. Et qui est un des facteurs de la victoire de Macron, le fait également de sortir des partis, de faire appel à une nouvelle génération politique, et excusez-moi de vous dire qu'Alain Juppé ne pouvait pas prétendre à ce profil, et quand il a renoncé définitivement à sa candidature, il en a fait l'aveu avec beaucoup de classe, je dois dire.
Vital, bonsoir.
Oui, bonsoir messieurs, je vous remercie de prendre ma question.
Je vous en prie, allez-y.
À travers les commentaires de nos invités, je déduis qu'on devine on envisage la reconstruction de la droite sous la victoire de monsieur Macron. Mais qu'en serait-il si madame Le Pen sortait victorieuse? Comment se recomposerait-elle la droite? Voilà, et je suis ni électeur ni de l'un ni de l'autre, pour votre information.
Merci beaucoup à vous, Vital. Dominique Reynier.
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui d'ailleurs rappelle que la campagne du second tour doit bien avoir lieu. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. On peut penser que Marine Le Pen présidente aurait les la possibilité de discuter avec une partie de la droite pour former une majorité. Oui, il y a des conditions, même législatives, seraient en situation de convaincre pas mal d'aspirants à l'élection ou à la réélection, selon la force du Front National. C'est déjà sur le territoire très impressionnant de voir le nombre d'élus dont le sort de droite, dont le sort va dépendre du vote Front National. Donc oui, c'est une bonne question. Je voudrais ajouter aussi un point, Nicolas Deborah, si vous me permettez, parce qu'on ne l'a pas encore dit, il y a bien des choses qu'on n'a pas encore dit, qu'on ne dira pas, mais il y a un élément quand même qu'il faut rappeler, pour tout le monde le sait, mais François Hollande ne s'est pas représenté. Et c'est quand même un ressort qui a manqué à cette élection. C'est un fait mécanique. La droite était très tendue vers cette revanche. Elle voulait sanctionner la gauche. Elle était sûre d'y parvenir, même sûre d'humilier la gauche. Et elle s'apprêtait à faire le procès de François Hollande et de son quinquennat. Il ne s'est pas représenté. Quelque chose là s'est effondré. C'est la première fois qu'un président qui peut se représenter ne le fait pas. Il y a des présidents qui ne pouvaient pas se représenter, d'autres qui ont essayé et qui n'ont pas été réélus. Mais c'est la première fois, d'autres qui ont été réélus, c'est la première fois qu'un président décide de ne pas se représenter. Et donc, le sol s'est dérobé quand même à ce moment-là. Et un des ressorts qui fait fonctionner cette élection a manqué, et a manqué en particulier à la droite. Il faut aussi l'ajouter parce que on risque de surinterpréter un tout petit peu les difficultés considérables dans lesquelles se trouve la droite aujourd'hui. Il y a quelque chose, je dirais, de tout de même un peu artificiel. Il y a une dimension qui va s'effacer, je pense, au moment des législatives, parce qu'à nouveau, les mécanismes classiques, malgré tout, vont jouer.
C'est-à-dire qu'on pourra vraiment mesurer l'état de santé du parti.
Un peu plus précisément qu'aujourd'hui.
Voilà, au moment des législatives. Jérôme Jaffray.
Oui, d'un mot simplement, le vote sanction, qui est le ressort depuis si longtemps des élections, Dominique Régnier a tout à fait raison de le souligner, n'a pas fonctionné puisque François Hollande s'est retiré. Et s'il a un peu fonctionné, c'est contre François Fillon finalement, qui lui a été victime d'un vote sanction. Mais l'autre chose que la droite n'a pas su susciter, mais là elle ne pouvait rien pour le vote sanction puisque Hollande était parti, c'est le vote espoir. C'est-à-dire que vous allez aux élections en vous disant que si vous votez pour le candidat que vous voulez voir élire, c'est pour améliorer la situation du pays, éventuellement votre situation personnelle, et que le programme qu'il propose aura des effets positifs sur le pays et assez vite sur vous-même. Or, il y a eu un manque de pédagogie, un manque d'empathie dans cette campagne de la droite absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'à aucun moment n'a été présenté le fait que les efforts demandés, très importants, soit retraite à 65 ans, 39 heures, etc., baisse massive du nombre de fonctionnaires prévus, aboutiraient à des améliorations dans la vie des gens et assez rapidement. C'est-à-dire qu'aucun élément positif n'a été présenté aux électeurs. Je trouve que dans ces conditions, 20% des voix, c'est pas mal.
La parole à Alain au Standard de France Inter. Bonsoir et bienvenue.
Merci, bonsoir à vous. Voilà, je me demandais, suite en écoutant votre émission, si la droite n'était tout simplement pas dépassée, en tout cas celle qui était représentée par Alain Fillon, François Fillon, et si ces conservateurs n'étaient tout simplement pas hors jeu. Je voudrais prendre un exemple. Il y a un problème aujourd'hui qui fait l'unanimité, le problème de l'écologie, un problème planétaire du réchauffement climatique, et ça n'était pas traité du tout par Fillon, ou alors de façon marginale. Et je me demande si vraiment ils ne sont plus dans l'air du temps. Enfin, ça ne fait que renforcer. Ça explique, entre autres, la position dans l'électorat de Fillon que vous avez faite tout à l'heure entre les jeunes et les vieux. Il n'y a plus aucun espoir. On a les vieux qui... les vieux, moi, dont je me mets. Et on a une opposition entre ces deux types d'électorats. Et je me dis que, vraiment, c'est moi, à titre personnel, j'espère que ces idées-là seront... oubliés, dépassés. Je me demande ça.
Merci beaucoup Alain pour cette question très très forte. Gilles Richard, il nous reste 3 minutes et quelques pour un dernier tour de parole.
Je reviens sur la question de l'auditeur, la remarque de l'auditeur précédent, disant « et si le Front National gagne ?» D'abord, il faut bien se dire que cette option n'est pas du tout inenvisageable. Hein. Il reste 15 jours de campagne et vu la manière dont Marine Le Pen mène sa campagne, comme on l'a vu aujourd'hui à Amiens, elle a certaines chances. Voilà.
Alors sur le logiciel conservateur, s'il vous plaît.
Si elle gagne, ça ne changera rien sur le fond, dans la recomposition du système partisan, car certes, il y aura toujours un grand pôle néolibéral qui devra se reconstituer, il sera certes un petit peu moins fort que si c'est Emmanuel Macron qui gagne, et un pôle nationaliste autour du Rassemblement Bleu Marine qui sera plus fort si le FN gagne. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que ce sera deux partis, mais ce sera des groupements, des alliances de partis, des fédérations. Voilà. Et bien sûr, je suis d'accord avec Jérôme Jaffré qui disait qu'il n'y aurait pas trois partis, mais une multitude de partis.
Alors,
mais
la parole ici à Dominique Reynier sur le logiciel conservateur, c'était très intéressant.
Très intéressante. Et alors, il faut rappeler quand même, mais l'auditeur s'en souvient sans doute, que la droite UMP, à ce moment-là, je dis bien UMP, avec Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo, Nathalie Kosciusko-Morizet, a complètement intégré le logiciel environnemental. Les accords de Grenelle, le Grenelle de l'environnement, ça a été quelque chose de très important. Et alors, il faut rappeler que c'est aussi une des causes des malheurs électoraux de la droite, notamment dans le monde rural. Dans le monde rural, on considère que la droite est devenue comme la gauche, c'est-à-dire qu'elle ne comprend plus le monde rural, le monde paysan. Elle ne pense que normes environnementales, elle ne pense que contraintes. Elle est devenue, sur ce plan-là, une espèce de... comme la gauche bobo, disent-ils. Et c'est un des sujets qui se posent. Est-ce que la droite a réussi à trouver une façon de défendre l'environnement à sa manière? Ce que lui reprochent aujourd'hui des électeurs de droite, hein, dans le monde rural, c'est plutôt de n'avoir fait qu'imiter la gauche.
Sur le logiciel conservateur, Jérôme Jaffré, n'est-il pas tout simplement dépassé, demandait notre auditeur.
Alors, si vous m'autorisez, pour ne pas répéter ce qui a été excellemment dit par Gilles Richard et Dominique Reynier, et puisqu'il nous reste très très peu de temps, un mot sur les législatives, qui est un logiciel politique très immédiat avant le logiciel culturel. Il y a plusieurs scénarios pour la droite. Hein. Soit, évidemment, il y a une majorité claire pour Emmanuel Macron et qui n'a pas besoin d'aller chercher et d'aller casser la droite. Il a sa majorité, la droite rentre dans l'opposition avec évidemment des possibilités de fragmentation, mais elle est dans l'opposition. Deuxième hypothèse, la droite arrive à prendre sa revanche et elle bat et elle domine, elle gagne les législatives, ce qui ne peut pas non plus être écarté du tout dans nos raisonnements parce que En Marche, c'est assez fragile pour aller mener la bataille des législatives. Là, également, nous sommes dans une situation où les choses sont simples. Là, ça devient très intéressant, c'est s'il n'y a pas de majorité claire. Si nous sommes dans une situation d'embrouillamini politique. Et là, nous avons effectivement une partie de la droite qui peut se détacher des partis des Républicains pour créer un groupe parlementaire. Là, c'est les beaux jours de la 4e République qui arrivent à vive allure. Un groupe parlementaire, une sorte d'UDSR de droite, aurait dit François Mitterrand en son temps, et qui est prête à travailler avec Emmanuel Macron. Il me semble que quelqu'un comme Bruno Le Maire nous a déjà fait savoir qu'il était prêt à aller dans cette direction.
Merci à tous les trois, Jérôme Jaffré, Dominique Reynier, Gilles Richard. Merci beaucoup, amis auditeurs d'Inter. Il est 20h.